T'sais, exemple qu'on avait mis un objectif de 1 million de dollars, ben, t'sais, c'est quand même risqué de pas l'avoir finalement. T'sais, même si tu atteins, exemple, 800 000, ben, peut-être que tu l'auras pas juste parce que ton objectif est trop élevé.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 134e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 10 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Les termes éco-responsable, engagement social, impact environnemental deviennent excessivement à la mode et importants pour la majeure partie des entrepreneurs que j'interviewe sur le podcast. Maintenant, certains posent des actions afin d'améliorer leur organisation et d'autres bâtissent littéralement une entreprise autour d'une cause précise. Et mon invité du jour se retrouve davantage dans le deuxième segment. Elisabeth Coulombe, présidente et cofondatrice de la société Terreau, une compagnie qui permet de transformer ses déchets organiques en fertilisants naturels, nous a fait le plaisir de s'entretenir avec nous pour le 134e épisode du podcast. Elisabeth et son équipe ont été capables de lever plus de 2 millions de dollars en sociofinancement pour ultimement commercialiser leur produit qui peut maintenant être acheté à même leur site Internet. Une autre belle histoire entrepreneuriale qu'on a la chance de faire découvrir sur le podcast. Sans plus attendre, ma discussion avec Elisabeth Coulombe. Elisabeth Coulombe, vous êtes la présidente et cofondatrice de Terreau Innovation, l'entreprise derrière le produit Terreau qui offre la possibilité à monsieur et madame tout le monde de transformer ses déchets organiques en fertilisant naturel. Au moment de votre lancement en 2019, vous avez orchestré une campagne de sociofinancement qui a généré plus de 1 million de dollars en 24 heures quand l'objectif initial était de 70 000 dollars seulement. Elisabeth Coulombe, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Oui, mais merci beaucoup Antoine pour l'invitation.
Et Elisabeth, votre produit est assez novateur et j'ai l'impression que c'est ce qui a grandement intrigué, peut-être même influencé les consommateurs à acheter en pré-vente votre produit en 2019. Peux-tu nous expliquer plus en profondeur les détails de votre produit avant qu'on parle de croissance ensemble aujourd'hui?
Oui, ben en fait, le produit, c'est un petit électroménager qu'on met sur un comptoir. En quelques heures seulement, il permet de transformer, de recycler nos déchets alimentaires en un fertilisant naturel qu'on peut utiliser dans nos plantes, saupoudrer sur notre gazon, par exemple. Donc, c'est une manière alternative de faire du compostage à la maison. En fait, on a créé Terreau, Valérie et moi, ma cofondatrice, lors de nos études en design de produits à l'Université Laval. On était toutes les deux situées à Québec avec pas de solution de compostage. On n'a pas accès à une collecte de compost ici. On était en appartement, donc pas accès à une cour extérieure. Puis on se sentait impuissante là, pour gérer nos déchets alimentaires à la maison, de pas pouvoir faire du compostage. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on s'est penché sur cette question-là.
Intéressant tout ça. Puis, j'aimerais savoir un peu, là, parce que là, c'est important que les gens comprennent aujourd'hui. Vous avez fondé, je crois, l'entreprise en janvier 2018. Vous avez fait vos premières initiatives de commercialisation en 2019 avec la campagne sur Kickstarter que j'ai parlé brièvement. Est-ce que tu es capable de nous expliquer un petit peu comment ça se déroule le lancement d'une campagne sur Kickstarter? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé, que vous avez préparé très longtemps en avance? Est-ce que c'est quelque chose qu'à un certain point, à un moment donné, vous vous êtes dit « c'est la bonne manière à utiliser ici pour commercialiser une première fois notre produit » Comment s'est déroulé tout ça?
Nous, comme je disais un petit peu plus tôt, on a développé Terreau dans le cadre de nos études en design de produits. Puis en même temps de ce programme-là, on avait fait un cours là sur les différentes manières de financer ou de puis tout ça. Puis on avait tombé sur le sociofinancement. Un prof il nous avait enseigné un peu qu'est-ce qu'était le sociofinancement. Puis on avait fait un projet sur ça qu'on devait voir les bonnes campagnes qui avaient bien fonctionné, les mauvaises campagnes. Donc très rapidement dans notre processus, on était à l'affût de le socio-financement en soi. Puis, c'était au même moment qu'on était en train de créer Terro. Donc, on comprenait que notre produit était un bon produit pour une campagne de socio-financement, soit que c'est un produit pour consommateurs, ça, c'est un des premiers éléments, un produit technologique, un produit vert, un produit design. Donc, c'est des différents éléments qui contribuent énormément là, à un succès d'une campagne de socio-financement. Puis à ce moment-là, nous, on terminait nos études en 2017. Donc, on avait déjà cette idée-là de faire une campagne de socio-financement avec notre produit Terro. Donc, effectivement, on a officiellement créé l'entreprise en janvier 2018, puis finalement fait la campagne en 2019. Donc, ça a pris près de 2 ans complètes à évaluer, analyser différentes campagnes, rencontrer différentes personnes qui avaient fait des campagnes de socio-financement pour comprendre comment ça fonctionne, les bons coups, les mauvais coups, puis vraiment bien se préparer pour notre campagne.
C'est avec qui vous avez discuté pendant ce temps-là? Est-ce qu'il y a des gens connus qui ont eu du succès en Kickstarter que tu pourrais peut-être nommer aujourd'hui?
Oui, bien en fait, une entreprise de Montréal, Smart Yellow, avait fait déjà une première campagne de socio-financement à ce moment-là qui avait très bien fonctionné. Donc, nous, on les avait contactés, Xavier, pour voir comment ça avait fonctionné de son côté, s'il y avait des conseils à nous offrir. On avait aussi O'Garden à Québec, qui était comme un produit là, qui avait bien fonctionné également. Fait que, nous, on allait juste les rencontrer, leur poser des questions. Puis, ensuite de ça, on a bâti notre campagne en fonction des différents conseils qu'on a reçus. Mais on analysait également des campagnes qui avaient moins bien fonctionné pour voir justement, OK, nous, qu'est-ce qu'on doit faire de différent pour que ça fonctionne? Puis, on regardait souvent justement des campagnes qui avaient levé de plus de 1 million, parce que c'était notre objectif.
Mais vous l'aviez pas dit. Donc, 1 million, c'était l'objectif, mais c'était 70 000 $ qui avait été inscrit. Est-ce que finalement, c'était simplement pour baisser les attentes que vous aviez mentionné 70 000 $ comme objectif initial?
Ben, en fait, ça, c'était un peu un des conseils qu'on avait reçus. C'était important d'établir un objectif qui était relativement accessible rapidement pour justement amener à faire parler davantage de ta campagne qui vient de fonctionner. Tu sais, par exemple, le but, c'est de dire, OK, j'ai atteint mon objectif en 5 minutes. Tu sais, quelque chose comme ça. Puis c'est aussi que si tu n'atteins pas l'objectif, ben, la campagne, tu ne reçois pas l'argent au final. Donc, tu sais, l'exemple qu'on avait mis un objectif de 1 million de dollars, ben, tu sais, c'est quand même risqué de pas l'avoir finalement, t'sais, même si tu atteins, exemple, 800 000, ben, peut-être que tu l'auras pas juste parce que ton objectif était trop élevé. Fait que, tu sais, c'était plein de petits conseils qu'on avait reçus, puis que finalement, de notre côté, ça a peut-être contribué d'une certaine manière à faire mousser davantage, puis à ce que ça monte plus rapidement. Mais, ouais.
Puis maintenant, au final, je crois qu'à la fin de cette campagne, il y a eu plus de 4 000 contributeurs. C'est le nombre de clients qui se sont prêtés aux gens en 2019. Là, je pense qu'on en a parlé un petit peu avant le podcast. Il y a eu beaucoup plus de commandes jusqu'à maintenant. Donc, je pense que vous êtes rendu à 7 000 commandes au total de votre produit depuis le lancement, c'est ça?
Oui, à plus de 7 000. En fait, suite à la campagne, pendant un an de temps, on a arrêté de prendre des commandes. Là. La campagne a duré 30 jours. Puis après ça, c'était pas mal ça. Nous, il restait tout l'industrialisation du produit. Donc, au moment de la campagne, on avait un produit, une preuve de concept, un produit qui fonctionne, mais sous forme d'un prototype. Donc, il restait encore beaucoup de développement à faire là, pour s'assurer que ce soit un produit qui s'assemble bien sur une ligne d'assemblage. Donc, ça nécessite énormément de travail d'ingénierie, de conception. Donc, un an plus tard, en octobre 2020, à ce moment-là, on avait un produit prêt là, à être commercialisé, il restait tous les outils d'assemblage à faire. C'est des longues étapes. Donc là, à ce moment-là, on a rendu notre site transactionnel. Donc, les gens, à nouveau, pouvaient, tous les gens qui avaient pas eu la chance de participer pendant la campagne de socio-financement, qui nous avaient découvert l'année précédente, mais là, à ce moment-là, ils pouvaient enfin précommander, se mettre dans la ligne à leur tour là, des commandes. Donc c'est ça. Puis, pendant la dernière année, effectivement, on a atteint un niveau de 7 000 commandes actuellement.
Wow, fantastique tout ça. Ben, félicitations, c'est assez exceptionnel d'atteindre ça, autant avec Kickstarter que finalement avec une entreprise qui est établie et qui peut être transactionnelle en ligne. Et là, parle-nous un petit peu de la manufacture du produit. Donc, en ce moment, quand les gens commandent le produit, est-ce que tout ça est confectionné au Québec? Comment ça se déroule, là, la création du produit?
Oui, bien, en fait, la production complète est faite directement à Québec. Donc, c'est un manufacturier là, qui se situe dans la ville de Québec, à environ 10 minutes de chez moi. Fait que c'est très pratique d'avoir ça de près de chez soi, de pouvoir se rendre sur place pour réagir rapidement s'il y a quoi que ce soit. Donc, il y a certaines composantes. En fait, les composantes viennent, certaines viennent de l'international, étant donné qu'ils sont simplement produites là-bas. Il y a des pièces qui sont faites à Montréal, en Beauce. Là, on a différents types de fournisseurs. Toutes ces pièces sont envoyées à notre manufacturier. Puis l'assemblage, la chaîne d'assemblage, c'est fait directement sur place là-bas. Puis c'est ça. Ensuite, c'est livré de cet endroit-là à nos clients.
Puis votre manufacturier, il n'a pas été surpris, lui, de voir autant de commandes rentrer, puis finalement de se rendre compte que, oh, le tout va être peut-être un petit peu différent de ce qu'on m'avait dit préalablement?
Bien, en fait, quand on les a approchés, on avait déjà un bon niveau de commandes, puis justement, on a toujours eu des grands objectifs. Donc, non, hein, je pense qu'il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là.
Parfait, je comprends. Je comprends un peu ça. Puis là, tu me disais un petit peu avant le podcast que finalement, après qu'il y a eu les différentes commandes qui ont été faites à travers le temps, je pense qu'il y a eu un certain point, peut-être, ça a été un petit peu plus long avant que les gens reçoivent finalement leurs commandes. Qu'est-ce qui s'est déroulé ici? Pour quelle raison, peut-être, le planning initial n'a pas été comme vous l'auriez pensé pour la production? Ça serait quand même intéressant de partager ça avec l'audience pour les gens qui pensent ultimement lancer un produit sur Kickstarter, faire la manufacture au Québec. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est déroulé de votre côté au niveau de la production?
Oui, bien, en fait, quand on a lancé, nous, la campagne de sous-financement, on avait validé les différents éléments avec des ingénieurs, avec pour le travail qui restait à faire, avec la mise en production, tout ça. Mais finalement, ça a avéré que notre produit était beaucoup plus complexe à terminer là, son développement en soi. T'sais, on avait une belle preuve de concept qui confirmait les différents éléments, mais il y avait encore différentes incertitudes qui ont été complexes là, à régler. On avait un prototype de filtre anti-odeur, mais là, maintenant, de le mettre sous sa forme, sous que ça soit commercialisable, en fait, ce filtre-là, que ça filtre les odeurs en toutes conditions, tous les types d'aliments possibles, c'était très, très, très complexe. Puis, il n'existe pas nécessairement beaucoup d'experts en gestion des odeurs. Donc, c'était beaucoup d'essais et erreurs, puis une combinaison d'éléments qui nous a amenés à trouver la meilleure solution. Mais tu sais, juste ça, cet élément-là a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ensuite, de trouver, par exemple, un moteur qui broie bien tous les aliments, encore une fois, dans différentes textures, qui soient sécuritaires. Tout ça, ça apparaît, tu sais, au départ, d'abord, relativement simple. Je dis, bon, on va prendre un moteur. Non, 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 non. Il en existe beaucoup. Après ça, il faut trouver un fournisseur de ce type de moteur-là. Il faut les tester. C'est plein d'éléments qui ont été extrêmement plus longs que prévu. Donc, qui nous a amené à avoir des délais justement sur le développement, l'industrialisation du produit. Puis, après ça, ben, tu sais, notre chère pandémie qui est arrivée encore de route, qui a aussi créé des délais supplémentaires, là, au niveau de, ben, qui a chamboulé complètement, tu sais, la chaîne d'approvisionnement mondiale. Tu sais, juste dans la dernière année, encore une fois, différents événements, qui ont amené à ce que le transfert des matières ou des composantes à travers l'international était vraiment plus difficile. Étant une petite entreprise, on est un petit client pour beaucoup d'entre eux, fait que parfois on peut se faire bumper, on peut dire, là, par d'autres industries majeures qui ont, c'est pour eux que c'est beaucoup plus rentable que nous. Donc, c'est plein de difficultés qu'on rencontre, que une chance qu'on ait vraiment une bonne équipe, on est toujours en mode solution, on est proactif, mais parfois il y a tellement d'éléments hors de notre contrôle que, tu sais, on essaie juste de toujours garder le focus et tout ça, mais il y a différents éléments qui nous ont amenés à avoir des délais supplémentaires. Mais en septembre dernier, on a enfin commencé notre production. T'sais, on sait que les gens ont été très compréhensifs, ont été patients, mais nous, tu sais, à quel point qu'on avait hâte que ça commence enfin, après tant d'années de travail. Puis là, depuis septembre, là, notre production accroît de semaine en semaine. On a encore des défis, ça n'arrête pas, c'est pas parce que la production a commencé que tout d'un coup, tout est beau. Puis une chose aussi, c'est que les produits ne se font pas tout en claquement de doigts. Là, un après l'autre doit être assemblé. Donc, on ne peut pas dire qu'on va livrer d'une claque tout notre backlog de commandes qu'on a. Donc, ça aussi, tu sais, on essaie d'être le plus transparent puis clair auprès de nos backers là, sur Kickstarter pour qu'ils comprennent la situation. Puis la majorité d'entre eux le comprennent bien. Là, donc, Mais on comprend un peu des fois la déception, puis les gens ont hâte, puis tu sais, on se met dans leur situation, puis on est pareil, là, c'est juste qu'on fait notre maximum.
Bien sûr, non, mais c'est compréhensible à un certain point d'avoir des enjeux de production sur un produit qui est sensiblement novateur. C'est pas quelque chose qui avait été fait plein de fois dans le passé, tout ça. Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours. Et maintenant, je serais curieux de t'entendre un petit peu là-dessus. Donc, vous avez ouvert maintenant votre site transactionnel. Donc, les gens peuvent en savoir plus sur vos produits, peuvent également obtenir vos produits dès maintenant. Et là, je serais curieux de savoir l'après. L'après-campagne Kickstarter, quand vous avez commencé à ouvrir les valves, à faire en sorte que les gens puissent magasiner sur votre site web, est-ce que vous avez été capable de reprendre un élan de momentum qui s'était créé préalablement avec la campagne? Est-ce que les gens, quand vous avez peut-être lancé vos initiatives publicitaires, déjà vous reconnaissaient, ils se disaient « Oh, j'ai entendu parler d'eux dans le passé ».
Oui, ben en fait, on a eu la chance d'avoir quand même beaucoup de visibilité rapidement avec Zéro parce qu'on a participé à différents concours étudiants, entrepreneuriaux, puis tout ça, fait qu'on a quand même eu souvent des articles dans les médias ou des communications, peu importe. Ça a fait beaucoup parler justement de la crise de financement. Donc là, quand on était enfin disponible sur notre site web, les gens justement ont pu commander leur appareil. Donc, puis il y en a beaucoup qui recherchent activement quand même des solutions au compostage. Donc, ils avaient entendu parler de Terreau ou des gens autour d'eux leur avaient parlé. Donc, effectivement, ça nous a apporté vraiment beaucoup une belle visibilité, tout ça. Puis tiens, à vrai dire, je pense que c'est quand on va avoir passé au travers notre backlog, quand on va vraiment être disponible au sens où que les gens vont pouvoir aller sur notre site web, commander, le recevoir en quelques jours, là, ça va vraiment être une deuxième étape un peu pour nous, si je peux dire, parce que là, ça va vraiment être du vrai commerce en ligne, ce sera plus une question de précommande ou de délai ou tu sais, d'attente. Donc ça, on a bien hâte d'être rendu là.
Puis, j'ai reçu énormément de gens sur le podcast dans les derniers temps, Elisabeth, qui nous disait que le commerce en ligne, c'est bien, c'est intéressant, mais de plus en plus, ces mêmes propriétaires de commerce en ligne regardent pour des avenues avec des points de vente, à être dans certains magasins pour littéralement vendre des produits aux consommateurs, donc d'être dans des chaînes traditionnelles de retail. Bien entendu, vous êtes au départ de votre aventure ici. On en a parlé depuis le début du podcast, mais est-ce que c'est quand même une avenue que vous allez regarder pour le futur d'aller travailler avec des détaillants pour avoir une distribution distincte à celle qui est uniquement en ligne?
Oui, effectivement, ça fait partie de nos objectifs, peut-être dans certains commerces pour faire découvrir davantage l'appareil Terreau, puis aussi de pouvoir le voir en vrai. Tu sais, je pense que c'est l'élément qui manque beaucoup là, au commerce en ligne, c'est que le côté physique, les gens aiment voir le produit, aiment le toucher, aiment comprendre comment ça fonctionne, les grosseurs, tout ça, il n'y a rien de mieux que de le voir en vrai. Donc, pour combler un peu ça, là, on souhaite effectivement dans le futur faire partie de ces magasins-là, mais chaque chose a son temps. Ce n'est pas nécessairement là, dans les prochaines semaines que ça va l'être.
Également, tu as lancé l'entreprise, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt avec ta cofondatrice Valérie Laliberté. Est-ce que, je suis toujours curieux de savoir ça un petit peu, dans les rôles des différents actionnaires d'une entreprise, des différents partenaires, est-ce que vos deux rôles sont très distincts, complémentaires? Est-ce qu'au final, vous faites un petit peu la même chose dans le travail au quotidien?
Bien, en fait, toutes les deux, on est designers de produits à la base. On s'est rencontrés dans le cadre de nos études. Au départ, je pense qu'on ne savait pas à quel point qu'on peut être complémentaire. Maintenant, on le comprend totalement. Puis, on a découvert là, qu'on avait des intérêts différents, là, justement. Finalement, on se divise très bien les tâches. Moi, j'ai pris le côté plus admin, si on peut dire. J'ai le titre de la présidence au sein de l'entreprise. Valérie est la chef de produit. Donc, elle a toujours rêvé de développer des produits. C'est vraiment ce qui l'anime le plus. Donc, c'est ça. Elle, c'est la chef de produit. C'est elle qui s'occupe du produit actuel. C'est elle qui va s'occuper de toute la gamme de produits là, qu'on va lancer aussi par la suite.
Puis toi, tu vas t'occuper un petit peu du développement de l'organisation, vol administration, marketing, vente. C'est ça ton rôle un petit peu au quotidien présentement, c'est ça?
Exactement.
Puis, j'aimerais continuer un petit peu en te posant des questions sur le produit en soi. Donc, vous avez le produit terreau qui peut être entre les mains des consommateurs. Maintenant, est-ce que pour faire ce produit-là, dès le départ, dans quelques temps, dans quelques années, vous avez eu besoin de breveter le produit? Est-ce que c'est une technologie? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez besoin de faire pour être certain que la propriété intellectuelle vous appartienne? Des fois, c'est le cas pour certains. Des fois, pour d'autres, ça a déjà été fait dans le passé. Donc, ça ne s'applique pas. Je serais curieux de t'entendre ici.
Oui, effectivement, on a fait une demande de brevet sur notre appareil. Donc, on a une technologie qui est unique. Oui, c'était un des éléments qui était quand même important pour se différencier des autres appareils sur le marché. Puis c'est un peu comme un outil dans notre coffre à outils, si je peux dire. T'sais, je pense que c'est important d'avoir
ouais.
Des fois, tu sais, c'est pas nécessairement utile présentement, mais un jour on a besoin de savoir qu'on est protégé, ben on va l'être. T'sais. Fait que c'est bien de le faire rapidement. Fait qu'on était super à l'affût de ça. Oui, c'est ça. C'est un processus qui est long là, quand même, les demandes de brevets. Là, ça prend plusieurs années.
Ouais.
C'est pas.
Comment ça se déroule?
Ben en fait, nous, on a développé notre technologie aussi en fonction qu'elle soit différente, qu'elle soit unique. Ensuite de ça, ben tu sais, il y a toute la première étape, c'est de la recherche, assurer qu'est-ce qui est fait sur le marché, de telle manière qu'on va se différencier. Après ça, c'est les dépôts, puis ensuite, c'est l'attente là, de l'analyse de tout ça. Après ça, c'est il y a différentes manières de faire, puis je suis pas la meilleure nécessairement pour l'expliquer. Là, je pense qu'une agence de brevet serait meilleur que moi, là, mais nous, on a décidé d'y aller avec un modèle, le PCT, ça s'appelle. Donc, c'est un modèle plus à l'international. Ensuite, ça nous donne un délai supplémentaire pour choisir des pays. Donc, c'est plein d'étapes que nous, on a appris en cours de route. Là. C'est ça. C'est un long processus de quelques années, là, quand même.
Intéressant. Puis, bon, là, tranquillement, vous pouvez commencer à avoir de l'attraction en ligne. On l'a dit un petit peu plus tôt. Est-ce que vous êtes capable quand même de vous projeter dans un futur, on va dire, moyen terme de 2-3 ans? Où est-ce que vous voyez l'organisation pour les prochaines années?
Oui, bien, en fait, on a des grands objectifs quand même avec Terreau. Là, actuellement, on est disponible à travers toute l'Amérique du Nord. Bientôt, on voudrait faire un lancement le plus important du côté des États-Unis. Puis ensuite, on se voit rapidement à aller au marché de l'Europe, puis même à travers tout le monde, toute la planète. En fait, partout où il y a des déchets alimentaires, il y a une problématique. Là, c'est pas réglé partout, puis en sachant que ça cause énormément de problèmes pour la planète, pour l'environnement. Les matières organiques responsables de 6% des émissions de gaz à effet de serre. Tu sais, c'est vraiment important. Puis c'est vraiment nous, comme citoyens, qui peut faire une différence. Donc, nous, notre but, c'est d'offrir une solution, d'aider les gens à pouvoir, de cette manière-là, du moins, là, diminuer un peu notre impact environnemental.
Ah, définitivement, vous avez une cause sociale associée à ça, donc c'est fantastique. Je termine toujours mes questions, Elisabeth, avec mes invités en leur posant des questions un petit peu plus personnelles. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Donc, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu dans le monde des affaires? Est-ce que tu t'intéresses à la lecture business un peu? Est-ce que tu regardes certains ouvrages pour peut-être te donner des idées, pour t'inspirer?
Oui, quand même. Mais en fait, ça c'est de mon côté, ça s'est vraiment développé encore une fois quand j'étais à l'université. On est en train de créer Terreau dans le cadre de notre bac. Puis là, je voyais qu'il y avait vraiment beaucoup d'intérêt, qu'il y avait énormément de potentiel. J'étais en train de faire un cours d'initiation à l'entrepreneuriat à l'université. C'était un cours de base de mon un cours à option que je faisais à la faculté d'admin. Puis je découvrais différents entrepreneurs qui venaient un peu parler de leur parcours. La prof, je l'avais vraiment apprécié. Fait que comme tout ça qui se passait un peu dans ma tête. Puis, on dirait que je voyais tellement le potentiel de notre produit, comment que ça pouvait aider les gens, comment ça pouvait faire une différence. Souvent, quand on présentait notre appareil dans des expositions de finissants, par exemple, les gens qui découvraient Terro nous demandaient, puis à ce moment-là, c'était vraiment qu'une simple belle boîte build, tu sais, ça n'existait pas du tout. Les gens nous demandaient, hey, combien ça coûte? Où qu'on pourrait l'acheter? Est-ce que vous voulez poursuivre ça? On en veut un, nous, à la maison, tu sais? Fait que, tu sais, d'avoir ces commentaires-là, c'est extrêmement motivant, tu sais, ça donne le goût de poursuivre. Puis, ben, Valérie et moi, on a cherché à toujours se faire entourer puis accompagner dans le développement de l'entreprise parce que, justement, il y a beaucoup de grandes étapes, là, à passer. C'est d'abord, est-ce qu'on s'est incorporé comme entreprise? Tu sais, c'est plein de petites questions de base qu'on n'avait aucune idée, là. Tu sais, c'est quoi ce qu'on doit faire? Puis, justement, il existe différents organismes. C'est comme nous, en étant étudiante, on a pu être avec Entrepreneuriat Laval, à l'Université Laval. Eux, ils nous ont aidés, là, à répondre à ces questions-là qu'on n'avait aucune idée, là. Puis, pour tout type d'éléments, tu sais, en fait, nous, des designers, mais après ça, il faut que tu t'occupes de la finance, il faut que tu t'occupes de la comptabilité, il faut que tu t'occupes du marketing. Tu sais, on doit un peu devenir des pros dans tout, puis c'est pour commencer parce que c'est nous qui s'occupe de tout. Mais je pense que c'est différent de. C'est tout ça qui était tellement motivant parce qu'on avait toujours une bonne réponse des gens, fait que ça nous a toujours amené à vouloir pousser. Puis en même temps, à ce moment-là, on avait comme. Rien à perdre. Tu sais, on venait de terminer nos études, on était prêt à aller sur le marché du travail. Moi, j'avais décidé à ce moment-là de m'inscrire là, au MBA en gestion des entreprises. Fait que moi, j'ai complété ma maîtrise là, tout de suite après mon bac. Fait qu'en même temps, j'avais des cours d'admin, plein de trucs que je pouvais appliquer directement à l'entreprise. Fait que c'était super, ça se combinait vraiment bien. Fait que c'est tout ça un peu là qui a amené à ce qu'on l'essaye, tu sais, c'était vraiment un peu ça notre feeling, c'est comme ben, on l'essaye puis on verra où ça nous mène, puis là tu dans le sort, tu sais. Puis après quand on était rendu à faire notre campagne, ben là ça a vraiment confirmé le tout, dire ben là tu sais on a peut-être 1000 personnes qui l'ont commandé là c'est vrai.
c'est le temps d'aller de l'avant avec tout ça. Intéressant. Je voudrais savoir également, est-ce que tu écoutes des podcasts d'affaires? Est-ce que tu essaies d'aller prendre un petit peu des doses d'inspiration quotidiennement en écoutant des podcasts?
Oui, ben en fait, le podcast Hypercroissance, j'ai écouté à plusieurs reprises. J'aime ça quand même m'informer là-dessus. Puis tu me parlais en fait tantôt de livres, c'était ta question, hein? Puis il y en a un en particulier qui a fait vraiment une différence là, dans le développement de Terro. C'est « Homme d'affaires malgré moi » de Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia.
Ah.
Donc, nous, quand que j'ai lu ce livre-là, ça a fait vraiment, tu sais, c'était plein d'éléments justement qu'on se questionnait, qui ont bâti une entreprise, mais comment qu'on veut la créer, tu sais, les valeurs de l'entreprise, tout ça. Puis, il y a plein d'éléments là, qui, dans ce livre-là, il compte son histoire, il compte comment qu'il en est venu à créer Patagonia, puis tout ça. Puis, c'était, tu sais, on dirait que ça, on se voyait vraiment beaucoup. Et moi, je me voyais comme lui, là, un peu, là, de dire, OK, on a un produit, mais il y a différents éléments qui nous tiennent à cœur. On veut pas passer par-dessus ça, tu sais. La question, évidemment, là, de faire de l'argent, mais pas à tout prix, là. On passera pas par-dessus nos valeurs pour s'assurer, tu sais, qu'on fasse de l'argent. Tu sais, toute la question, tu sais, nous, on voyait ça quasiment négatif, la question de faire de l'argent, là. Tu sais, pis tout ça, fait que, on dirait que ça nous a comme donné un peu des ailes, de faire comme, hey, lui, il a tellement bien réussi, puis il a réussi à mettre en place des choses tellement belles puis inspirantes que nous, ça nous a comme donné un peu de l'élan pour poursuivre là, dans tout ça.
Fantastique. Dernière question que je te pose, avant de te laisser filer. À quoi ressemble la routine avant, pendant et après le travail d'Elisabeth Coulombe?
Ben, en fait, j'ai réussi à être une personne quand même équilibrée, là, je crois. Je sais pas si tout le monde est nécessairement d'accord avec ça, mais en fait, tu sais, c'est sûr que mes journées sont très occupées, mais je réussis à, tu sais, le côté sportif là, est vraiment important pour moi, fait que je suis quand même une bonne coureuse. Là. J'ai couru trois marathons quand même dans ma vie. Je fais des demi-marathons plusieurs avant de faire des marathons, justement. Donc, ouais, je réussis à le côté, là, ça me permet de changer d'air, changer les esprits un petit peu. Fait que, t'sais, ça, c'est important pour moi. Les week-ends aussi sont réservés vraiment pour mon temps personnel. Puis c'est vraiment un peu l'esprit là, qu'on essaie de mettre en place au sein de Terreau avec nos différents employés. Parce que justement, là, on pense que c'est important de recharger nos batteries, puis comme ça, on en revient encore plus motivé puis en forme le lundi matin. Donc, c'est ce qu'on essaie de promouvoir au maximum. Puis, tu sais, pour l'instant, je trouve que ça fonctionne très bien. Puis, c'est quelque chose qu'on essaie de garder. Puis, tu sais, Valérie et moi, les deux, on est totalement d'accord avec ça, là, que l'équilibre de vie est essentiel, là, je pense, pour bien performer. Donc, c'est ça. Les soirs, des fois, on finit tard, là, mais tu sais, on réussit quand même à garder du temps pour nous-mêmes. Puis, les week-ends aussi, là, ça, c'est réservé pour le temps perso.
Wow. Ben, Elisabeth, c'est fantastique ce que vous êtes en train de construire avec Terreau. C'est nouveau, certes, donc il n'y a pas encore énormément d'historique autour de ça, mais ça a du momentum, puis c'est une idée qui est totalement incroyable, qui est encore une fois une cause sociale, une cause environnementale même, on pourrait dire ça ainsi, qui va pouvoir faire du bon pour notre société en soi, pour notre environnement. Donc, félicitations pour ces beaux accomplissements-là. Et si on veut en apprendre un peu plus sur Terreau, j'imagine le site web présentement, ce serait le meilleur endroit pour vous rejoindre?
Oui, le site web ou les différents réseaux sociaux, là, Instagram, Facebook. Donc, le site web, c'est terreauinnovation.ca. Donc, c'est là qu'on peut trouver le maximum d'informations, puis sinon sur effectivement les plateformes sociales.
Parfait. Bon, ben merveilleux. Je te remercie énormément, Elisabeth, pour le temps que tu as pris aujourd'hui avec nous. J'espère que ça va avoir inspiré les gens qui nous écoutent. Peut-être que ça va même transformer certains auditeurs en clients Terreau. Qui sait? Donc, merci encore une fois d'avoir pris le temps avec nous. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Les belles histoires d'hypercroissance continuent à s'accumuler au Québec et je me sens excessivement choyé de pouvoir aider semaine après semaine à faire découvrir certaines de ces histoires plus impressionnantes les unes que les autres. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.